A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
La disparition d'un père peut-elle produire une révélation littéraire? C'est la question dans laquelle se noie notre invitée Aliona Gloukova, née en Biélorussie juste avant la chute du mur de Berlin. Autre question, comment la disparition de la langue paternelle peut-elle produire un auteur francophone? Nous irons fouiner en sol majeur dans les buissons de ce récit intitulé « Dans l'eau, je suis chez moi », paru aux éditions Verticales. Premier roman où les mots dipsomanie et zapoy flottent à la surface d'une langue française et sablée. Bonjour Aliona Gloukova.
Bonjour Yasmine.
Vous êtes aussi traductrice, enseignante, coordinatrice culturelle. Quand est-ce que les mots sont devenus importants pour vous ?
Je pense que c'était toujours un peu le cas. Comme plein d'adolescents, j'écrivais des poèmes, mais je ne le prenais pas trop au sérieux. Et après, en fait, finalement, je pense que je suis revenue à l'écriture en écrivant en langue française, d'une manière étonnante. J'ai assisté à un atelier d'écriture de François Bon, c'était je pense en 2008 ou 2009, et c'était toute une révélation pour moi parce que ma langue française était brute, simple, un peu incorrecte, et j'aimais beaucoup cette sensation de boiter, de trébucher dans cette langue. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'écrire en langue française.
Vous avez voulu explorer cette imperfection.
Oui,
on va y revenir.
Imperfection, oui.
Et les mots des Beatles, à quel moment ils sont devenus importants pour vous?
À ce moment d'adolescence, peut-être un peu plus tard, je pense que c'était quand j'avais 14 ou 16 ans. Ma tante et mon oncle, ils voyageaient beaucoup et j'ai découvert chez eux un CD de Beatles avec des petites conversations entre leurs chansons. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai écouté.
Alors on va écouter et puis pleurer peut-être aussi un peu sur leur While My Guitar Gently Weeps.
Surely be learning.
Les guitares pleureuses des Beatles dans l'ensol majeur d'Aliona Gloukova, née en 1984 à Minsk, dans la Biélorussie d'autrefois, qui appartenait à l'Union soviétique d'autrefois.
Мороженое.
Ты.
Ды. Ком. D'amour et d'eau fraîche.
Alors, est-ce qu'on vivait d'amour et d'eau fraîche dans votre enfance? Vous me regardez avec un petit air malin. Ça veut dire quoi?
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Quand on dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, il s'agit qu'il n'y a pas beaucoup à manger et on se nourrit de quelque chose plutôt spirituel que matériel. Et de l'autre côté, il y a une expression de l'eau fraîche et tout de suite, ça me plonge un petit peu dans mon enfance où j'ai appris à nager assez tôt. Et voilà, il y avait tout de suite ce rapport à l'eau qui était toujours très important pour moi.
Pourtant, la mer n'est pas du tout du côté de la Biélorussie.
Oui, et c'est ça qui est assez étonnant parce qu'en fait, on n'a pas, dans notre pays, il n'y a pas accès à la mer. Pour aller à la mer, il fallait partir en Crimée. Ukrainien. Moi, je tiens toujours à dire que ça appartient à l'Ukraine.
Est-ce que la petite fille de cartographe que vous êtes pourrait nous situer sur la carte du monde où se situe véritablement la Biélorussie ?
La Biélorussie, c'est un tout petit pays qui se retrouve entre la Russie, la Pologne, l'Ukraine et Lituanie.
D'où vient la famille ?
Mon père, comme ma mère, il vient de la Russie. Et mes grands-parents sont nés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine.
Un grand-père cartographe ?
Un grand-père cartographe.
Quelle histoire ? C'est quoi son boulot finalement ? Ça veut dire quoi être cartographe ?
Être cartographe, ça veut dire, d'après ce que je comprends, parcourir les territoires peu connus pour qu'on puisse créer des cartes des territoires. Très souvent, c'était fait dans les objectifs quand même militaires.
Un grand-père militaire également ?
Un grand-père militaire, un petit peu malgré lui. Je crois qu'il a assisté à la guerre avec le Japon et après à la guerre de Vietnam.
Et une grand-mère qui a eu une histoire d'amour un petit peu problématique ?
C'était pas forcément une histoire d'amour pour ma grand-mère Dina. En fait, c'était l'époque où on dénonçait beaucoup ses voisins, les gens qu'on connaissait. C'était une façon facile de combattre nos ennemis. Et il y avait un jeune homme qui était amoureux de ma grand-mère quand elle était jeune. Je pense qu'il était militaire. Et c'était pas réciproque cet amour. Et il l'a dénoncé en disant, je sais pas exactement. Et il l'a appris. Et elle a compris qu'elle devait partir assez vite de son village. Il est parti dans la nuit. Et elle a parcouru toute la Russie pour se retrouver dans l'est du pays, pour se sauver.
Donc vous-même, vous avez un peu connu cette ambiance de dénonciation, de suspicion ?
Non, je pense que je ne l'ai pas tant ressenti que ça. Après, j'ai l'impression que même mon pays d'aujourd'hui, on n'a pas tellement de cas de dénonciation, mais il y a quand même cette peur qui est toujours présente d'avoir fait quelque chose qu'il ne faut pas faire et qui est potentiellement illégal.
Vous avez en tout cas connu les dernières respirations de l'URSS jusqu'à ce fameux 25 décembre 1991, jour où Gorbatchev présente sa démission à la télévision russe.
Chers compatriotes, concitoyens, en raison de la situation qui s'est créée, avec la formation de la communauté des États indépendants, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. Je prends cette décision en raison de la situation actuelle. J'ai défendu fermement l'autonomie, l'indépendance des peuples, la souveraineté des républiques. Mais je défendais aussi la préservation d'un État de l'Union. L'intégrité du pays.
Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства. С чем я не могу согласиться.
Les événements ont pris une tournure différente.
И после Алматинской встречи и принятых там решений,
la ligne du démembrement du pays et de la dislocation de l'État a gagné.
Моя позиция на этот счет не изменилась.
Ce que je ne peux pas accepter.
Gorbatchev à la télé et dans votre poste en sol majeur sur RFI. Alors, Aliona Gloukova, vous avez peu de souvenirs de cette période parce que vous êtes gamine à ce moment-là. Vous avez 6-7 ans, hein, en 91. Vous n'avez même pas le souvenir d'une sorte d'euphorie particulière à ce moment-là ?
Non, pas forcément. Mais il y avait certaines choses, juste je m'en rends compte, parce que j'étais à l'école et à l'époque, avant d'être membre du Parti communiste, les écoliers passaient par plusieurs étapes. La première étape, c'est être octobrien et après être un pionnier, ça s'appelle pionnière. Et les pionniers qui étaient plus âgés, ils avaient des grands foulards rouges. Et moi, j'envisageais ça, j'avais trop envie d'avoir ce foulard rouge que ma sœur avait. Et justement, je ne l'ai pas eu parce qu'il y a eu la chute de l'URSS. C'est une grande déception.
Alors, à propos de souvenirs, on va plonger dans l'eau salée, puisque c'est votre élément, Aliona Gloukova. L'eau salée de votre mémoire d'enfant, encore dotée à ce moment-là d'un papa, d'une famille et d'une voiture.
Nous sommes en Zaporojets, une voiture orange, moche, bossue, qui fait beaucoup de bruit. C'est tout le matin et ça réveille tout le monde. Nous partons en vacances. Mon père est au volant, maman à côté, Tania, Slavka et moi sur le siège arrière. Parmi les casseroles, les tentes, les sacs de couchage et les boîtes de conserve. Je me baisse un peu. Mes copines ne me verront pas dans cette voiture informe, qui n'a rien d'une Jiguli, belle et moderne. Vesta se tient sur nos genoux. Elle mâche du chewing-gum. Love is. Qu'elle a trouvé coulé quelque part dans notre appartement, par moi ou ma sœur.
J comme je me souviens.
Merci pour cet extrait en sol majeur de votre récit dans l'eau, je suis chez moi, Aliona Gloukova. Alors il y a pas mal d'éléments qui racontent cette période des années 80-90 en Biélorussie. Vous racontez ce qui se passe rue Kakovskaya, vous racontez l'appartement décrépit, la vodka qui aide les hommes et femmes à se réchauffer. Vous racontez le petit traiteur Kulinaria qui fait des tchéberouki. On sent que l'Empire ottoman est passé par là. Mais en même temps, est-ce que vous diriez que ce texte est une sorte d'inventaire à la Prévert de votre enfance biélorusse ?
Je ne sais pas si c'est vraiment dans le but de retrouver cet inventaire d'enfance.
En tout cas, le moteur. Je vais vous aider, le moteur en fait de cette mémoire mosaïque que vous reconstituez, c'est évidemment votre père, que vous nommez Yura dans ce récit. Votre père qui disparaît donc de façon mystérieuse en 1995 lorsque vous avez 11 ans. Qu'est-ce qui se passe ?
Il part en voyage. Il est physicien, chercheur, il travaille dans un laboratoire. Et à l'époque, il part à la retraite. Et il faut dire que pendant toute sa vie, il rêvait de faire un voyage en bateau. Et c'est justement quand il part en retraite, ça correspond justement à la chute de l'URSS, où les frontières s'ouvrent, où ça devient vraiment plus facile d'avoir un passeport et pouvoir sortir. Et comme il était un chercheur, il commençait à travailler avec les entreprises privées. Il faisait des recherches pour eux et il était payé pour ça. Ainsi, il s'est retrouvé avec les documents et l'argent pour pouvoir voyager. Et puis, son ami à lui a construit un bateau en Ukraine et ils se sont retrouvés en Istanbul où mon père est parti en bus. Et ils ont commencé leur voyage à Istanbul. Après, mon père a changé de bateau et juste après avoir changé le bateau, il a appelé ma mère hein, pour lui dire qu'il va partir en Inde. Dans quelques jours, il y a une tempête, le bateau s'est disloqué et on n'a jamais retrouvé le corps de mon père, tandis que les deux autres personnes qui étaient sur le bateau étaient retrouvées.
Alors, votre mémoire floue et impressionniste, pour le coup, hein, aidée de l'écriture, tente de faire remonter à la surface les moindres petites parcelles, les moindres petits bouts de souvenirs que vous avez de ce père, car vous avez un refus de cette disparition. Pour vous, les pères ne peuvent pas disparaître comme ça.
Ce qui s'est passé quand c'est disparu, c'était quelque chose tellement inimaginable que pour moi, c'était comme si c'était la porte ouverte qui est restée comme ça, quelque chose vraiment indéfini. Et ensuite, 15 ans après, je me suis rendu compte que la porte reste toujours ouverte il n'est toujours pas là. Du coup, peut-être il faut faire quelque chose avec ces disparitions. Et en ce moment même aussi, je me suis rendu compte que je me rappelais très peu de choses de lui. Et du coup, même pour fermer la porte, pour lui permettre de disparaître, il fallait le laisser réapparaître presque à nouveau pour moi. Je ne peux pas te dire « reviens ». Je ne sais pas comment ce sera si tu devais revenir. Tu entres dans notre appartement, tu restes dans le couloir, debout. Comment te faire entrer à nouveau dans notre vie ? Je m'imagine dire à mes amis. Je présente mon papa, que je n'ai pas vu depuis 20 ans, ou je dis « papa, c'est ton petit-fils », ou « papa ». Ton père est mort il y a des années. Ou papa, viens là, je vais te montrer comment allumer l'ordinateur. Mais si, tu le sais bien. Mais comment vit-on une fois disparu? Je t'imagine revenir dans ma vie. Assis sur la chaise de ma chambre. Tu ne bouges pas. Tu es immobile, comme si tu n'étais pas là. Je n'arrive même pas à imaginer ma vie en ta présence.
Dans l'eau, je suis chez moi, et vous, vous êtes chez vous, sur RFI. Donc ce récit, Aliona Gloukova, vous le menez, je dirais, en apnée, d'une certaine manière, au pays de la disparition. Parce que ce lieu devient, sous votre plume et dans votre mental apparemment, un véritable lieu. Comment vous le définiriez, ce lieu?
C'est une bonne question parce que c'est ouais, finalement la disparition, c'est quand on dit quelqu'un a disparu, ça veut dire qu'il est dans un endroit inconnu. On ne sait pas où il est. On ne peut pas identifier le lieu où il est. Et je me disais parfois que le lieu de disparition, c'est une sorte de salle d'attente où il y a tous les gens qui sont perdus, qui attendent à être retrouvés.
C'est un lieu philosophique ?
C'est un lieu, oui, un peu philosophique. Après, j'ai l'impression que cette disparition matérielle du corps aussi correspond étonnamment à une disparition dans le souvenir. Comme la porte reste toujours ouverte, il n'y a pas d'autres souvenirs qui se rajoutent et les souvenirs d'autrefois, elles s'estompent. Du coup, il y a très souvent la personne qui est disparue pour de vrai disparaître aussi dans des souvenirs.
Alors, il y a un mot bien intéressant sous votre plume, Aliona, c'est le mot dipsomanie, qui apparaît à un moment donné. Je suis allée voir Monsieur Larousse pour savoir ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est le besoin maladif de boire des boissons toxiques. Et vous en parlez comme d'un phénomène culturel qui porte un nom d'ailleurs en Biélorussie et en Russie. J'imagine, on parle de zapoy.
Oui, et c'était tout un travail pour moi justement de trouver un mot qui pourrait correspondre à ce mot zapoy.
En français ?
En français.
Il n'y en a pas ?
En français, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. J'ai trouvé ce mot dipsomanie, en plus ce mot très beau, tout de suite des images, un peu dionysiaque, des fêtes. Et mes zapoy, c'est quelque chose vraiment, je pense, pas très connu en France, c'est vraiment culturel chez nous, où une personne boit pendant toute la journée et peut passer des semaines et des semaines à boire ainsi.
C'est admis par la société. On sait qu'il y a une disparition dans l'ivresse.
C'est quelque chose qui était tellement normal, tellement banal, que c'était presque admis, en fait. Tout le monde savait qu'il y a certaines personnes qui font ça. Et je me rappelle que les professeurs, les enseignants que j'avais à l'école, les profs de physique, parfois elles ne buvaient pas, parfois elles n'étaient pas là.
Et donc votre père était lui-même victime de dipsomanie ?
Oui. Oui, c'est-à-dire il y avait des semaines où il commençait à boire et ça devenait maladif. C'est-à-dire il ne s'agissait plus de plaisir d'ivresse, mais presque de cette envie de se noyer dans l'alcool. À ce moment-là, on buvait de la vodka et c'était de la vodka de mauvaise qualité qui était justement presque toxique.
Et vous, vous faites le lien entre cette maladie de la boisson et sa disparition physique ?
Quand j'essayais de le comprendre, et tout étant adulte, il y avait quand même cette envie de s'anéantir à travers l'alcool, de disparaître socialement à travers l'alcool, parce que parfois la vie devenait trop dure pour lui. C'était compliqué d'avancer professionnellement, socialement, c'était pas le membre du Parti communiste.
C'était un communiste inadapté, vous
inadapté, oui.
C'est quoi un communiste inadapté?
Je pense que comme c'était tout un processus pour devenir un membre du Parti communiste quand il était à l'université, et après il y avait la volée... C'était pendant un service militaire. Il a volé des substances explosives. Je pense que c'était pour traverser... la rivière, et à un moment donné, il fallait exploser des barrages. Il a volé ça, ça a été découvert, et il a été
exclu. Voilà,
exclu du parti.
Mais
du
lui
communiste.
N'a pas voulu revenir.
Il n'a pas voulu revenir quand on lui a proposé justement pour qu'il puisse avancer au niveau de sa carrière, et non, il a refusé. Il a refusé.
Alors, il y a un souvenir quand même gravé dans votre mémoire, Aliona Gloukova, c'est ce jour où il vous préserve de la catastrophe de Tchernobyl qui a eu lieu, on le rappelle, en Biélorussie.
Il faut savoir qu'il travaille dans un laboratoire avec des appareils qui mesurent le niveau de la radiation, on peut dire ça.
La radioactivité.
Radioactivité. Et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui s'est passé. Il est rentré à la maison. Et comme, voilà, il savait ce qu'il faut faire dans des situations pareilles, il a fermé la porte, fermé les fenêtres, on a pris du iode. Il pleuvait ce jour-ci, et tout le monde était dehors, et c'était de la pluie radioactive. Il y a pas mal d'enfants, comme moi, qui sont retrouvés sous cette pluie, et nous non, parce qu'on était protégés.
Alors, c'est assez amusant, parce que vous pensez qu'il y a, à Lyonna, un animal en chacun de nous, et visiblement, chez vous, c'est le pingouin qui se cache. Et ça fait le lien avec votre titre et avec cet élément dont on parle depuis le début, avec ce récit « Dans l'eau, je suis chez moi ». Pourquoi est-ce que vous pensez que l'eau est un élément quasi ombilical entre vous et votre père ?
Parce que c'est lui qui m'a appris à nager et à plonger assez tôt. Il jetait des pièces de monnaie dans une piscine et j'allais les chercher. Et je sais que l'eau était importante pour lui. Après, il m'a amenée chez son professeur de natation. Et après, j'ai coupé un petit peu ce lien avec l'eau que j'avais et avec lui. Et c'est justement, en fait, en lisant sur lui, j'ai recommencé à nager.
Il est 10h17. À ce moment-là, j'entends un craquement, comme si un gros morceau de glace se détachait d'un iceberg pour partir nager tout seul. Tout est léger, tout est bleu, tout est blanc. Ce sont les derniers mots de votre récit. Dans l'eau, je suis chez moi, Aliona Gloukova.
L'épine est sans mûrir de la forêt spectre. Sans crainte du pressoir.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit?
Aliona. Ah, vous en avez un tout de suite, spontanément.
Oui, tout de suite, un biélorusse.
Allons-y.
Моя бабуля не ведае болю.
Ma grand-mère ne connaît pas la douleur.
Яна думае, што голад гэта ежа.
Elle pense que la faim c'est manger.
Галота гэта багацце.
La misère c'est la richesse.
Смага Это вода.
І la soif, c'est l'eau.
Її тіло, як виноград, обвілося вокруг палки.
Son corps comme la treille s'enroule autour d'un bâton.
Її волоси, як пчеліні крилці.
Ses cheveux sont comme les ailes des abeilles. Elle avale des rayons de ciel, appelés pastilles.
Вона глитає сонячні зайчики таблеток. Називає інтернет телефоном у Америку.
Elle pense qu'internet est le téléphone pour l'Amérique.
Її серце стало рожевим.
Son cœur est devenu une rose.
Його тільки можна штунюхати.
Et tu ne peux que le sentir.
Притискуючися до її грудей.
En te blottissant contre sa poitrine.
Більше від його ніякого толку.
Il ne sert à rien d'autre. C'est juste une fleur.
Тільки квітка. Її руки як ноги бусла, червоні палочки.
Ses bras sont comme les pattes de cigogne.
І я сяджу на кукішках.
Des bâtons rouges.
І вию валком на білу повню твоєї голови, бабуля.
Et je suis assise accroupie hurlant comme un loup à la lune blanche de la tête, grand-mère.
Я кажу тобі, гэта не боль. Гэта так моцна табе абдымае Бог.
Je te dis que ce n'est pas de la douleur. C'est ainsi que le ciel te serre dans ses bras.
Цалуе і коле сваёй неаголенай шчакою.
T'embrasse et te pique avec sa joue non rasée.
Pourquoi vous avez choisi ce poème, Alena Gloukova, le poème de Valzina, comment on prononce?
Valzina Morte. C'est une poète biélorusse de ma génération. Mais elle parle de sa grand-mère d'une manière très tendre. Ça me fait penser à ma grand-mère, à moi. Il y a aussi un petit peu ce côté païen dans ce poème. Parce que les toutes dernières lignes, elle dit que ce n'est pas le douleur, c'est aussi que le ciel ou le Dieu te serre dans ses bras. T'embrasse et te pique avec sa joue non rasée. Et il faut savoir qu'en Biélorussie, d'un côté, on est tous orthodoxes, mais il y a aussi un côté presque païen de la religion. On parle à Dieu, on s'adresse avec nos demandes. Et je me rappelle de ma grand-mère, il y avait un petit coin où elle faisait ses prières. Voilà, il y avait un côté très touchant dans tout ça, même si j'aime pas forcément la religion, je suis pas forcément religieuse, ça me touche beaucoup, cette croyance.
Alors on sent votre lien à la poésie, dans les deux langues, hein, je dirais. Je parle pas du tout le biélorusse. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre le biélorusse? Est-ce que le biélorusse est un dialecte proche du russe ou c'est une langue complètement différente?
C'est une langue à soi. Complètement différente.
Du russe.
Je pense que les Russes ne comprennent pas le biélorusse. C'est bien sûr deux langues qui viennent de la même origine.
Alors il y a cet étonnement autour de vous dans le fait que vous écrivez, c'est votre premier récit là qu'on a sous les yeux, vous écrivez directement en français.
Oui, c'était toute une découverte pour moi. Quand j'écris pour la première fois, j'ai beaucoup aimé cette langue un peu brute et limitée. Je me disais qu'il y a moins de mots pour moi dans cette langue, et c'est peut-être pour ça que je pourrais être plus précise, plus directe. J'aime bien aussi, je crois que c'est Deleuze, en parlant de Beckett.
Gilles Deleuze ?
Oui, Gilles Deleuze, en parlant de Beckett, dit qu'il a bégayé.
Il a bégayé.
Il a bégayé.
Et ça vous intéresse, le bégaiement de la langue ? Mais dans quelle langue vous aimez bien bégayer ?
Dans la langue française, dans la langue russe aussi, j'essaie d'écrire une langue incorrecte. Et j'aime bien ce bégaiement que j'ai d'une façon naturelle, je crois, dans la langue française.
Et pourquoi? Ça correspond à quoi?
Je pense que ça correspond à cette recherche d'indicible, en fait, dans ce trébuchement. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à être dit et nommé. Il y a un manque de confiance et de sécurité qui m'attire beaucoup dans la langue.
Est-ce que, pour ce premier roman écrit en français, est-ce que vous auriez le fantasme, l'envie de le traduire en russe?
Peut-être pas. Je pense que je ne le supporterais pas en russe. J'aurais plus de mots et finalement peut-être ce serait moins juste.
Pourquoi?
Parce que déjà il y a plus de mots qui me viennent en russe. Et aussi, il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés pour raconter cette histoire. Du coup, ils ont perdu un petit peu cette force.
Les mots des autres, vous voulez dire de la famille.
Les mots des autres, de la famille.
Donc en fait, raconter l'histoire de la disparition de votre père en français, c'est vous attribuer un territoire à vous toute seule, qui n'appartient qu'à vous. Ça devient votre lieu, votre disparition à vous toute seule.
Oui, c'est d'un côté un peu même presque mon lieu de silence, parce que je commençais à l'écrire à Minsk, en français, tout le monde autour de moi parlait russe, et pour moi c'était comme un petit cocon. Et après finalement, oui, c'est mon territoire à moi, parce que la langue française dans laquelle j'écris, dans laquelle je commence mes brouillons, je pense que c'est la langue qui n'existe pas, que j'invente un petit peu, qui est incorrecte. C'est une langue à moi.
Alors, vous avez fait, on le devine, un beau crochet par la philosophie. Vous nous avez cité Gilles Deleuze, mais vous avez lu aussi un certain Michel Foucault, qui vous a aidé peut-être à penser le corps. Lui qui disait « Mon corps, c'est le contraire d'une utopie ».
Tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Et je pense après tout que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement d'utopie, à quoi sont-ils dus? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé. Toujours transfiguré.
Michel Foucault sur RFI. Foucault et l'estime de soi qui n'est pas au top. Hein. Pourquoi vous aviez envie d'entendre cet extrait-là, Aliona Gloukova?
Oh, je l'ai entendu il y a, je crois, 5 ans. Je lisais pas mal Foucault à cette époque-là. Et je trouvais cet extrait vraiment très fragile, très sensible, très touchant. De se dire qu'on est enfermé dans un corps qui ne correspond pas et on ne peut pas s'en sortir.
Surtout pour vous? Oui. Auteur d'une histoire autour de la disparition du corps.
Oui.
On ne peut pas ne pas y penser.
Oui, c'est ça. Peut-être d'ailleurs disparaître, c'est finalement la possibilité de sortir de ce corps auquel on appartient sans l'avoir choisi. Finalement, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, là je me rends compte que cette histoire-là d'animal enfermé dans ce corps, de défunt enfermé dans le corps de mon père ou de pingouin enfermé dans mon corps, ça rejoint à cette plainte ou cri de Michel Foucault qui n'est pas content dans le corps où il est.
Je redoute un certain usage du rapprochement goulag-renfermement. Un certain usage qui consiste à dire... Nous avons tous notre goulag. Il est là, à nos portes, dans nos villes, dans nos hôpitaux, dans nos prisons. Il est ici, dans nos têtes. Foucault a écrit ça également. Il s'est penché sur, vous le savez mieux que moi, vous avez un master en création littéraire. Je ne sais pas si vous avez découvert tout ça à ce moment-là, mais en tout cas, vous vous êtes penché sur sa façon d'étudier les mécanismes du pouvoir. Est-ce que ça a pu éclairer la société biélorusse dans laquelle vous êtes né?
Oui, justement, parce qu'en fait, quand il parle des micro-pouvoirs et dans tous ces systèmes, stratégies de pouvoir qui ne sont pas forcément ancrés qu'au niveau de l'administration, des chefs d'État, mais au niveau basique... micro-sociétal, dans les interactions de tous les jours quotidiens, dans toutes les institutions. Pour moi, ça a été un choc.
Le citoyen lambda participe à ce système de goulag, vous voulez dire?
Oui.
Le mot communisme a quel sens pour vous aujourd'hui?
Bon, jusqu'à mon arrivée en France, je crois que comme ma génération, j'étais bien traumatisée par l'Union soviétique. Le président d'aujourd'hui, Loukachenko, il s'adresse à cette nostalgie de l'époque soviétique de communisme et le réutilise pas mal dans les symboliques d'État, reproduction des fêtes nationales, glorification de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Du coup, comme je suis traumatisée par le passé et par le présent, moi, voilà, le communisme, pour moi, c'était associé au, voilà, au camp de travail, à Goulag, à la dictature d'aujourd'hui. Et c'est en venant en France que je découvre qu'il y a le gauche, socialiste, communiste. Bien sûr que ce n'est pas très, très rapproché, mais je restais, pour certains moments, un peu perplexe. Par,
en observation, en tout cas.
En observation, oui.
И уважают ратный труд. А защита Отечества всегда была, есть и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота.
А ком? Allons enfants de la patrie.
Petit détour donc en Europe de l'Est sur RFI avec ce défilé militaire, vous hochez de la tête. Est-ce que vous nous faites les présentations de ce défilé militaire?
Comme j'ai dit avant, le président d'aujourd'hui, Loukachenko, il a fait toute une spéculation sur le passé soviétique et la glorification de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, tous les ans, le 9 mai, c'est pas du tout le jour de la paix ou de la fin de la guerre, c'est carrément le jour de la victoire. Et le peuple russe est vu comme le peuple glorieux qui a remporté la victoire. Et cet événement qui est assez ambigu pour moi, je pense que parce que je suis toujours nostalgique par rapport à mon enfance, où mon grand-père était militaire, on voyait des vieux avec leurs médailles, avec leurs fleurs défiler, c'était quelque chose de touchant à l'époque, et en même temps, je me rends compte
de l'histoire derrière, de la manipulation.
De la manipulation qui est derrière, qui est bien présente.
Et pour vous, alors, passer de la Biélorussie à la France, est-ce que dans votre tête, ça veut dire être dans une logique européenne, même s'il n'y a rien d'officiel hein, entre la Biélorussie et l'UE? Est-ce que vous vous sentez européenne?
Oui, je crois, j'ai envie de dire oui. Dans le sens, en fait, si on me pose la question est-ce que je me sens biélorusse ou français, je dirais non, parce que j'ai l'impression que j'ai une identité un petit peu multiple, floue. J'aime pas me rattacher à la nationalité, à cette question de territoire. Mais européenne, ouais, je pourrais dire, parce que pour moi, c'est moins... Bon, bien sûr qu'il s'est rattaché à la territoire, mais c'est aussi un rattachement idéologique qui me parle bien.
Donc, en tout cas, pas d'appartenance particulière vis-à-vis de cette patrie biélorusse que vous avez quittée par amour. Hein. Vous avez le cœur pris par un Frenchie, par un Français.
Et c'est ça.
Et ouais. Ni biélorusse dans votre attachement patriotique, si jamais il y en avait un, ni française en devenir.
C'est possible que je veux devenir un jour française, mais...
Je ne parle pas des papiers, hein.
Oui,
je comprends. Du
sentiment. Oui, je comprends. Il y a beaucoup de choses auxquelles je me rattache quand même. Bon, la liberté de parole...
La langue.
La langue. Oui.
Vous êtes en métamorphose, en pleine métamorphose?
Je pense que je suis en pleine métamorphose, oui.
Entre deux eaux, quoi.
Oui, entre deux eaux.
Aliona Gloukova, née à Minsk, est fille pingouin d'un père qui disparaît un jour dans les eaux méditerranéennes au large de la Turquie. Ça donne un récit romancé intitulé « Dans l'eau, je suis chez moi » et ça donne aussi « Sur la mer Noire, pas loin d'Istanbul ».
Quand je pense à toi, j'imagine une ligne qui chavire, qui chute, qui s'esquive à la fin. Je te vois en été. Le soleil est tellement fort que tout devient blanc. tu souris. Je suis fière d'être à tes côtés. Nous sommes des comploteurs. Je suis un marin. Tu m'entraînes avec toi dans ton voyage. Tu me montres la mer Méditerranée et Istanbul.
Alors comment se fait-il qu'Istanbul soit une ville que vous portez dans votre cœur, Aliona Glukova ?
Je suis allée pour la première fois un petit peu en recherche de mon père disparu. En recherche de souvenirs à compléter, à inventer par rapport à lui, à ses sensations. Et j'étais séduite.
Par quoi ?
Par tout ce mélange de cultures, par ce mélange de aussi des stihi.
Comment russe. On dit en biélorusse ?
Stihi, en russe. Déjà, c'est un tour de mer. Je sais pas, tout ce mélange-là de couleurs, de sons, un petit peu syncrétique, on dit.
Syncrétique, ouais.
Oui, syncrétique, ouais. Ça m'a fascinée et je pense que j'ai toujours du mal à dire pourquoi. Mais c'est comme, justement, je me sentais bizarrement, étrangement chez moi, même si c'est finalement la culture qui est très lointaine de la mienne.
L'âme de votre père y rôde ?
Je crois, oui. Je crois qu'il a bien choisi l'endroit où... au-dessus duquel rôder, et je pense que ça doit être là.
En fait, c'est troublant et trouble, cette séduction que vous avez pour ces eaux méditerranéennes qui ont sans doute avalé votre père. Est-ce qu'aujourd'hui, Aliona, vous diriez que vous êtes aussi à l'aise sous l'eau que sur la terre ?
Oui, je crois. J'ai l'impression que c'est dans l'eau, on est plus... On est tellement détaché de ce qui est social, de cette nécessité-là d'être identifié, cette subjectivation d'individu dont parle Foucault. On est tellement, ouais, il y a un côté corporel, physique, presque animalesque qui m'attire, où je me sens justement dans mon élément. Et en plus, même mon corps dans lequel je suis emprisonnée n'est plus délimité de la même façon que quand je suis sur la terre, où je marche verticalement.
En sol majeur, @rfi.fr.
Au générique de cet en sol majeur consacré à Aliona Glukova, des souvenirs soviétiques, biélorusses, et une disparition racontée dans ce récit publié aux éditions Verticales, Dans l'eau, je suis chez moi. On va refermer cet en sol majeur avec, vous allez devoir choisir entre le duo brésilien Toquinho et Vinicius de Moraes, et puis nos chers papis de la Havane du Buena Vista Social Club à Aliona. Oh là là, vous faites la grimace, ça va être dur ça, je sens.
Ce sera un peu compliqué. Chan Chan.
La Havane donc.
Pourquoi? Oui. Parce que cette chanson m'a plus accompagnée dans la vie, même si je tiens beaucoup à la chanson de Toquinho. Et c'est justement, pour moi, cette chanson, la chanson Chan Chan, a été presque thérapeutique. Et il y avait aussi cette idée-là d'ambulation perpétuelle. Parce que dans cette chanson, il dit « Je viens dans un endroit pour partir dans un autre. Quand je viens dans un autre endroit, c'est pour repartir. » Et je me sens toujours dans cette déambulation constante. Et je me retrouve dans cette chanson.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Fawaz Baker. À demain.
Oh, I do love this.